Fred Film Radio, Festival de Cannes, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Aujourd'hui, pour notre couverture du 72e Festival de Cannes, nous avons le plaisir de rencontrer Adèle Haenel, qui est une des deux comédiennes principales du film présenté par Céline Sciamma en compétition, Portrait de la jeune fille en feu.
Bonjour Adèle.
Bonjour.
Dans ce film magnifique, votre personnage a une évolution. Et comment vous avez articulé votre jeu de manière à suivre vraiment les différents mouvements de son parcours?
Alors, je suis contente que vous notiez ça. Je sais pas si, parce qu'en fait, moi, je me suis vraiment amusée à essayer de construire un personnage qui n'était pas une unité psychologique, mais qui était vraiment qui évoluait en fonction du regard porté sur lui. Et du niveau d'intimité qu'elle a avec le personnage de Marianne. Du coup, j'ai construit vraiment le personnage en trois phases, en me disant que j'allais faire une première partie qui était vraiment plus, hiératique, c'est-à-dire mystérieux, et en fait avec une inspiration par rapport au rapport au japonais, même au théâtre, enfin au masque, etc. Et donc avec une tenue du corps. Très grande, c'est-à-dire peu de gestes, une voix hyper posée, un rapport un peu méfiant à la parole et des émotions assez contenues, enfin voilà, ce truc-là. Ça, c'était la première partie. Après, je me suis dit qu'à partir du moment où il y a la scène du piano, qu'il y avait un truc qui se fissurait, une sorte, moi j'avais appelé ça la période des gels, du coup, où d'un coup, on sent qu'il y a une rupture, qu'on a accès à quelqu'un derrière, et donc avec les émotions qui commencent à apparaître. Et la troisième période, qui est vraiment la période où, de chaleur, où les choses circulent, et où les émotions circulent, la sensualité, le corps est plus libéré, le rapport à la pensée est plus spontané, et voilà. Et donc en fait, c'était ces trois étapes que j'avais essayé de faire. Et ces trois étapes, on apprenait. C'était vraiment parce qu'à l'origine, je voulais faire cette espèce de travelling intérieur.
Tout le monde ici à Cannes a noté que c'était un film où on ne voyait à l'écran pratiquement pas d'hommes.
C'était pas en majorité, c'est sûr. La majorité était des femmes et les chefs de poste étaient majoritairement femmes. Ça m'est arrivé de manière aussi claire, non, mais enfin, comme j'ai fait Naissance des pieuvres, on nous avait déjà dit ça, Naissance des pieuvres.
Qu'est-ce que ça change exactement?
On remet pas tout en perspective en fonction du regard masculin, donc déjà c'est une différence énorme. Mais je pense que ça peut se lire, ne serait-ce que dans la façon, dans l'histoire, donc comment on a du statut des actrices en fait. Déjà rien que ça témoigne du fait que c'est un regard masculin qui sur la construction du fantasme. Enfin parce que voilà, les actrices c'est un truc quand même qui est lié au fantasme, etc. Et dans le côté contenu, qu'est-ce qui est joliesse, jeunesse.
Est-ce que vous pensez qu'on peut comparer le regard du peintre et son modèle à celui du réalisateur ou de la réalisatrice et son acteur ou sa comédienne?
Dans le film, je pense qu'il y a quand même une analogie dans la façon que Céline et moi avons eu de collaborer et comment on a été respectivement importantes dans la carrière de l'une et de l'autre, quoi. Parce qu'on a toujours dialogué, qu'en effet, il n'y a pas c'est pas unilatéral, quoi, le regard. Donc oui, c'est... Et puis en plus de ça, je pense que le sentiment amoureux et il déclenche chez Marianne dans le film la découverte d'elle-même en tant qu'artiste. Alors qu'avant, elle est plus dans un truc de suivre des codes, très très bonne exécutante, mais pas sa patte à elle. En fait, elle se cache derrière des standards. Je pense que ça fait écho quand même. En fait, le rapport, il est similaire parce que l'amour, en fait, là-dedans, vient comme un révélateur de l'artiste, en fait. Je pense. Ce qui vient questionner, vient déplacer, et voilà. Et du coup, il ramène ce truc un peu indicible qu'on cherche dans l'art, parce que dans l'art, quand même, ce qu'on cherche, c'est le beau, quoi. Mais comment ?
Si on tire en avant, on file cette analogie entre le peintre, le modèle, et le réalisateur ou la réalisatrice et l'acteur, on peut imaginer que ce film propose une définition différente de la direction d'acteur et montre plutôt un dialogue.
Je pense que direction d'acteur, c'est un peu un mauvais mot issu du dressage des animaux, quoi. Et je pense que bon, ça, on gagnerait à changer de terme. Mais c'est une vraie collaboration. Et en fait, je pense qu'on a plus de liberté. On a d'autant plus de liberté qu'on est accompagné. Donc on dit dirigé, voilà, mais qu'on est accompagné parce que ça fait un ping-pong, un écho avec la personne et on n'est pas perdu. On a une sorte d'exosquelette, on dit, voilà, de structure extérieure, de guide, quoi, pour l'imaginaire. Et par contre, aujourd'hui, j'ai fait des films où j'étais vraiment extrêmement corsetée, c'est-à-dire il fallait regarder à un endroit, il fallait exprimer telle chose, telle émotion que le réalisateur, il voulait vraiment obtenir ce qu'il avait imaginé. Bon, aujourd'hui, je pense que je referai plus ça. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça intéressant de me plonger là-dedans parce que ça a d'autres qualités. C'est justement essayer de vraiment prendre la forme de ce que quelqu'un veut. Mais aujourd'hui, je le ferai plus ça. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on me laisse une marge quand même suffisante de liberté, y compris pour que je rentre dans le monde de la personne. C'est pas pour lui imposer quoi que ce soit, mais pour que je puisse respirer. C'est pour ça que le film, c'est un film de regard. C'est qu'en fait, nous, en tant qu'acteur ou en tant que modèle ou quoi, on fait de la mise en scène parce que, et on est presque plus, parce qu'on est a priori dans une position plus passive d'attendre les ordres, etc. Ben, on est vraiment dans l'écoute. On regarde vraiment la personne qui nous demande des choses pour essayer de comprendre ce qu'elle veut. Et ça, c'est pour ça, en fait.
Et vous qui connaissez bien Céline Sciamma, puisque vous l'avez accompagnée dans Naissance des pieuvres, son premier long métrage, comment vous décririez sa manière de travailler ?
Ah, Céline, comment elle travaille, elle regarde en fait. Et elle n'insiste pas trop en fait. Elle regarde et si son idée marche pas, elle est d'accord pour changer. Mais ça, c'est. Moi, si je veux dire ça, en ça, elle n'a pas du tout la même méthode. Mais dans le genre, je la rapprocherais de Campillo en fait. Parce que Campillo, pour le coup, lui, alors il va jamais ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Mais au final, tout le monde est génial dans le film. On ne sait pas comment il a fait son compte, mais il a réussi. Et ça, c'est quand même assez dingue. Et Céline, elle parle plus, elle veut plus expliquer les bases et tout ça. Mais au fond, elle arrive à nous faire faire ce qu'elle dit juste, je sais pas, par son regard en fait. Ça, c'est vraiment con, mais c'est comme ça.
Mais aussi des scénarios béton dans les deux cas d'ailleurs. Et est-ce que vous avez suivi l'écriture ou vous avez vraiment eu le scénario entre les mains quand il était fini ?
J'ai eu le scénario fini. Je pense que j'étais vraiment une des premières à le lire. Et donc j'étais un peu stressée. J'ai reçu dans ma boîte mail et j'ai dit ouais, ok, là je vais prendre 3 jours et après je l'ai eu. Voilà.
Ce qui est intéressant dans le film, c'est que le langage un peu plus ancien et soutenu que celui qu'on parle aujourd'hui couramment donne un rythme particulier. Il a une certaine lenteur.
En fait, le français est pas, à part le fait qu'on se vouvoie, donc le français est pas vraiment volontairement daté. C'est, par contre, ce qu'on a essayé de faire, qui est lié peut-être aussi à l'époque, mais qui est surtout lié à l'envie qu'on avait de faire cette espèce de lente montée. Moi, au départ, je voulais vraiment partir d'un truc qui était, on voulait faire une lente progression, et donc ce rapport à la langue, pour moi, au départ, qui est très mesuré, très calme, presque, qu'on appelle ça, monolithique, en fait, au tout début, hein, je veux dire. Ça jouait avec ça. Et le fait de contenir, c'était un des grands enjeux de l'évolution du personnage. Ça passait aussi par la langue. En fait, je trouve que c'est bien la contrainte. Je trouve que ça oblige à se réinventer, quoi. Quand on... C'est ça qui fait qu'il y a des rencontres majeures aussi. C'est que c'est des cinéastes, par exemple, c'est une cinéma qui... Là, en l'occurrence, c'est pas une rencontre, mais c'est un prolongement. C'est quelqu'un qui a pas une vision cliché de moi-même, en fait, qui cherche pas à me voir pour ce que, enfin, pour ce que d'autres ont déjà fait. C'est comme une réinvention, on va dire. Donc c'est une chance de dingue. Je sais pas si ça répond à votre question, mais c'est en tout cas la contrainte est. Pour moi, c'est toujours signe que quelque chose est en train de se passer. Même si je ne suis pas forcément le plus à l'aise possible sur certains trucs, c'est un bon signal, je trouve.
Et puis je trouvais que ce langage littéraire et la retenue, et puis les circonstances même qui font comme ça qu'il y a cette retenue, ça amenait justement une sensualité terrible qui faisait que certaines scènes étaient torrides, pour le coup.
Disons que moi, ce que je trouve le plus érotique, c'est quand même le moment avant le... Comment est-ce qu'on va s'embrasser? Comment est-ce qu'on va se toucher pour la première fois? C'est comme si on se rejouait ça en permanence dans sa tête. Enfin, il y a quelque chose là-dedans qui est dans ce délai infini qui est le truc le plus sensuel qui existe. Enfin, moi je trouve, donc c'est pour ça que ralentir, c'est prolonger l'instant. Donc c'est un peu, enfin, moi je trouve ça toujours très efficace. J'avoue que quand Céline est venue avec son idée de scène de sexe, de scène d'amour, parce qu'il y avait une scène, je sais pas si elle était écrite ou ça. Enfin, quoi qu'il en soit, il y avait une scène sensualité. Et quand elle est venue avec son idée, moi j'étais trop contente parce qu'on avait l'impression que c'était une idée un peu subversive et en même temps très très chaste. Donc voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça très très drôle aussi à faire et encore plus drôle à regarder. Je trouve que c'est justement, moi je trouve ça super intéressant de se poser la question de la représentation de la sensualité, de la sexualité au cinéma. Mais faut se poser la question. Faut pas juste dire livrer comme une évidence de la chair en pâture, quoi. C'est tout.
J'ai noté aussi qu'il y avait beaucoup de plans qui sont rapprochés, mais qui ne sont pas des gros plans, qui reprennent un petit peu la logique du portrait.
Je trouve que c'est intéressant de se poser la question du gros plan dans le cinéma, parce que pour moi, en fait, le gros plan, ça implique un truc de rapport de domination du réalisateur avec les acteurs, simplement parce qu'on n'a pas d'espace, en fait. Et que ce qu'on va chercher, c'est ton visage ou quoi, mais c'est pas ta liberté. On va pas chercher ta liberté, on va te chercher toi. Donc ça implique un rapport, pour le coup, qui serait plus traditionnel de réalisateur sorcier ou acteur matière. Alors que là, c'est plus collaborateur.
On parlait de langage. Dans le duo que vous formez dans le film avec le personnage de Noémie, cette langue, elle est importante. Il y a un vrai plaisir du dialogue.
Moi, j'ai beaucoup aimé les scènes de dialogue parce que jouer avec Noémie, c'était super. J'envisageais vraiment le truc comme une sorte de terrain de jeu, quoi. Où du coup, dans les scènes de dialogue, je fais une tentative d'envoi, enfin, de la réplique dans un certain sens. Et puis je vois comment elle répond. Et quand elle répond, tout d'un coup, j'essaie de détourner son truc. Enfin, comme si je mettais un effet dans une balle de ping-pong ou je sais pas comment dire, mais d'essayer de voir comment après elle réagit. Donc il y avait cette dynamique-là.
C'était Adèle Haenel qui nous parlait de son rôle dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma pour Fred Film Radio.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.